Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave et le désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour, c'est Florence au micro. Ça a commencé par un cri. Eh bien non, tout va bien. Nous sommes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et nous allons écouter des cailloux dans l'engrenage, puisque c'est bientôt c'est dans quelques jours, la nuit la plus courte de l'année. Eh bien, nous allons faire une émission dédiée à la nuit. Nous sommes le 17 juin 2026 et c'est la 171e émission des Cailloux dans l'engrenage. Et nous sommes deux, Florence au micro et un enfant. Nous allons faire une lecture partagée. Bonjour.
Bonjour.
Voilà le programme. Le programme, ce sera d'abord un livre somptueux qui s'appelle « Madame la nuit » de Fabrice Collin. Et merci Fabrice Collin et son éditrice, parce que c'est grâce à Bibliomanie où j'ai fait la technique et puis la programmation musicale d'une fois dans Bibliomanie où il était l'invité. Et il s'intéresse à la littérature jeunesse et il a les deux volets. Et il m'a fait envoyer ce livre dont il est l'auteur, et l'illustratrice c'est Laura L. Et c'est chez Gauthier Langereau, et c'est paru en 2025. Il y aura aussi Cache-lune de Éric Puy-Barret. C'est toujours le même éditeur, mais là c'est beaucoup plus ancien, c'est de 2002. Ensuite, il y aura Je veux pas dormir de Claire Pissara et Aurélie Guilleret. Là, c'est un album Nathan paru en 2026. C'est tout à fait récent. Ensuite, un grand classique de la littérature jeunesse, Tommy Ungerer, Jean de la Lune. Alors ça, ça date du siècle dernier, c'est sûr. Il est mort déjà il y a longtemps. Ça date de 1969, la première parution. Ensuite, il y aura Un abri pour la nuit. C'est un livre de chez Biscotto que nous aimons bien. Biscotto qui fait surtout des bandes dessinées pour enfants, mais aussi des albums illustrés. Ça, c'en est un. C'est de Thibaut Rassa et ça date d'un peu de 2026. C'est juste tout neuf. Eh bien, il y aura aussi Les animaux, La nuit des animaux. Tiens, passe-moi s'il te plaît pour que je sache l'auteur, parce que je ne le connais pas par cœur. La nuit des animaux de René Mettler. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est un documentaire qui est déjà paru il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon... Qui est paru en 2019. Voilà, comme la musique, eh bien, il n'y aura pas une musique, il n'y aura pas de chanson spéciale pour les enfants, il y en aura plein, plein de musique. Et vous verrez, on va pas s'amuser à faire un quiz pour savoir qui a trouvé et qui n'a pas trouvé. Je dirai la musique après. Vous vous amuserez à chercher. Donc, je vais commencer par Madame la Nuit de Fabrice Collin et Laura L. Alors, voilà ce que j'en pense. J'apprécie beaucoup l'idée de départ. C'est un anachronisme et je vous expliquerai plus tard. C'est-à-dire que les illustrations mélangent plusieurs époques. L'illustration absolument somptueuse. Ça se passe dans le luxe. C'est un peu gênant parce que la nuit est belle, elle suscite la rêverie, mais elle est aussi révélatrice plutôt de la misère et de la saleté. Et ça n'est pas du tout évoqué. Bon, c'est peut-être hors sujet, mais sur Radio Libertaire, ça nous gêne un peu. Même dans un coin de rue ou même dans un coin de page, il n'y a pas du tout d'allusion à la pauvreté pour réveiller la réflexion critique par rapport à la nuit. Les grandes personnes partent au travail, oui, sauf celles qui n'ont ni logement ni travail. Et c'est aussi la triste réalité des grandes villes. Donc, c'est le seul reproche que je ferai à ce livre, qui est par ailleurs vraiment très réussi. Voici la quatrième de couverture. Madame la Nuit aime faire la fête, sortir, danser, sans s'arrêter. Alors pourquoi aller se reposer? Un jour, elle décide de ne pas rentrer du tout. Depuis, dans la grande ville, il fait toujours nuit. Sortir le chien, jouer à la marelle, courir à l'école, tout se passe dans le miroitement des étoiles et des réverbères, c'est amusant et puis ça l'est un peu moins. Comment convaincre Madame la Nuit d'aller se coucher? C'est un conte nocturne, poétique et enchanteur, éclatant de couleurs pour s'émerveiller des petits mystères de la nuit. Alors des couleurs à la fois vives et sombres, c'est somptueux. L'illustratrice, je ne la connaissais pas, Laura L-E-L. Donc nous allons le lire à deux voix, une page chacun, ça sera plus simple parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu lourd à manipuler tous nos disques et tous nos livres. C'est un livre qui vaut 15 euros et c'est le prix, ça vaut son prix. Je commence. La vie était si simple quand il faisait jour. Dans les rues de la grande ville, tout respirait la gaieté. Les arbres frémissaient sous la caresse du soleil. Il y avait toujours une jolie musique dans l'air et les oiseaux y joignaient leur chant. Chaque matin, Zelda sortait de chez elle, vive comme un courant d'air, et galopait gaiement sur le trottoir où s'allongeaient les ombres. L'école, la peinture, le cours de musique, tant de joie l'attendaient dehors.
Une fois que tout le monde avait fait ce qu'il avait à faire, le jour s'en allait. Arrivait doucement le règne du crépuscule, puis de la lune et des étoiles. Quand les parcs sur les avenues, les lumières des réverbères s'allumaient, on rentrait chez soi pour le dîner. On se glissait sous de moelleuses couvertures. On se racontait des histoires pour s'endormir. On éteignait les lampes, clic, et peu à peu, un grand et beau silence se glissait entre les gratte-ciels, s'étendait dans les faubourgs. C'était le temps de Madame la Nuit. Madame la Nuit qui sortait, qui s'en allait voir des amis et faire la fête. Madame la Nuit qui aimait tant danser, valser sur les places désertes, sa robe immense déployée, qui s'amusait jusqu'à l'aube. Jusqu'à cette fois où Madame la Nuit s'amusait tant qu'elle décida de ne pas rentrer. Ça alors, c'était bien la première fois qu'un tel événement se produisait.
Le matin, il n'y avait plus de matin. Le jour qui aurait dû se lever à l'horizon ne put sortir de sa cachette. « Maman, est-ce qu'on va aller à l'école aujourd'hui ? Papa, il va revenir quand le soleil ?» Les grandes personnes secouaient la tête, désemparées. Elles n'avaient pas de réponse. La nuit était partout. Les oiseaux ne chantaient plus. Ils attendaient, comme tout le monde. Zelda et ses amis commençaient à imaginer des choses. « Est-ce que ça va durer toute la vie ? Est-ce que les fantômes vont sortir de leur cachette ?» Ouh, les parents fronçaient les sourcils. « Quel fantôme, Zelda ? Allez, va te coucher, demain il y a école !» Sauf que demain ne voulait plus rien dire, que les écoles restaient fermées, que les horloges perdaient la tête, qu'on ne savait même plus si on avait sommeil ou non. Au début, la petite fille trouvait ça plutôt intéressant.
Tu as vu ça, Toby ? Plus personne ne dort, et j'ai l'impression que de nouvelles étoiles se sont allumées dans le ciel. Partout dans la grande ville, les gens contemplaient, rêvassaient, attendaient. Mais attendre quoi ? La nuit était partout, et personne ne savait où la trouver.
Peu à peu, une vie nouvelle s'organisa. On n'allait tout de même pas rester les bras croisés. Bon, d'accord, il n'y avait plus de soleil, mais est-ce que c'était si grave ? À présent, pendant la moitié du temps, les lumières de la grande ville se rallumaient et on faisait comme si de rien n'était. Les grandes personnes partaient au travail, les enfants reprenaient le chemin de l'école.
Tous les lundis et les jeudis après la classe, Zelda devait promener Toby. Et bien maintenant, elle le promena la nuit, elle le promenait la nuit. « Bonjour, monsieur Baumelin. Comment va Biscotte ?»« Bonjour. Tu veux rire ?» grommelait le voisin. « Tout est déréglé. Je n'en peux plus, moi. J'ai besoin de soleil. Et Biscotte aussi. On ne peut même plus aller au parc. Ah, de mon temps, on n'aurait jamais vu un bazar pareil. » Il fallait bien le reconnaître. La nuit sans fin. Ça ne plaisait pas à tout le monde.
Les enfants, eux, étaient sans doute les moins embêtés. L'obscurité ne leur faisait pas peur, au contraire. Et puis, les oiseaux étaient revenus. Milo, le petit frère de Zelda, avait même découvert que le marchand de glace passait, désormais, à minuit. Ah, où était-ce à midi ?
Jouer à la marelle à 6h du matin, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Zelda, allez, rentre maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner, ou du dîner. Les grandes personnes étaient de plus en plus perdues. Zelda, elle s'efforçait de vivre comme d'habitude. Et tant pis si c'était bizarre. Minuit moins le quart, hop, c'était le moment de sortir pour la leçon de violon.
Ainsi passait le temps, désormais. Ainsi s'écoulaient les saisons monotones et toutes un peu semblables. Le printemps obscur, l'été des ténèbres, l'automne de la pénombre. Et l'hiver, comme d'habitude. Les adultes avaient des mines sombres et fatiguées. Les enfants ne s'amusaient plus comme avant. La lumière leur manquait. la chaleur d'un matin après la pluie. Regardez le soleil se lever, le voir glisser à l'horizon, cligner des yeux dans la lumière. Où donc était passé le jour? Oh, la nuit était belle, bien sûr. Personne ne pouvait dire le contraire, mais Zelda n'aimait rien tant que de l'attendre, la découvrir, la regarder disparaître. À présent qu'elle était toujours là, c'était moins passionnant.
Ça ne peut plus durer comme ça, grommelait le vieil oncle de Zelda, en fumant furieusement sa pipe. Il va falloir trouver une solution. Mon cher Gaston, pendant que vous râlez, moi je mène l'enquête, s'amusait Lucie Jacquinte, son épouse, qui connaissait tout et tout le monde dans la grande ville. Il est parfaitement clair que cette madame la nuit ne veut pas rentrer se coucher. Elle s'amuse beaucoup, et je la comprends. Cette ville est si pleine de surprises et de distractions, mais je crois que j'ai trouvé une solution. Si on appelait notre petite nièce chérie.
Zelda ? Zelda, c'est ta tante adorée au téléphone. Dis-moi, ma puce, tu prends toujours tes leçons de musique chez ce vieux Freddy Lumière ? La petite fille acquiesça. Monsieur Lumière était un homme extraordinaire, le meilleur musicien de la grande ville. Chanteur aussi, sa voix était douce comme le frôlement. Aucune mélodie ne lui était étrangère. Zelda lui exposa l'idée de sa tante. Il fallait trouver une musique pour la nuit, une musique rien que pour elle, une mélodie qui donne envie de fermer les yeux, de plonger dans le sommeil. « D'accord, répondit Monsieur Lumière qui s'était installé au piano. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais quoi ? Tu vas jouer avec moi. »
Une douce musique s'éleva au-dessus des toits. Elle se fifolait par la cheminée, par les soupiraux, les fenêtres entrouvertes. Elle se mêlait à la pluie et aux étoiles. Une belle jeune femme qui courait dans les rues, étourdie de fêtes et de danses endiablées, s'arrêta soudain pour reprendre son souffle. Et voici que la mélodie lui parvenait maintenant. Voici qu'elle s'enroulait autour d'elle, tel un manteau douillet. Madame la Nuit prit une grande inspiration et ferma les paupières pour mieux écouter. C'était une sorte de sortilège. Oh, elle s'est amusée comme une folle. Oui, elle avait vu la ville entière. Elle avait ri et dansé, comme si le jour ne devait jamais arriver. Mais elle était fatiguée, si fatiguée. Et cette mélodie la berçait, comme une enfant. Dans le ciel d'encre, les oiseaux s'étaient mis à volter et à chanter aussi, comme pour lui montrer le chemin. Il est temps de rentrer chez vous, Madame la Nuit. Il est temps de dormir.
Well, I don't think you had to leave me, baby.
Vous avez reconnu dans la voix de Monsieur Lumière Ray Charles. Dans le royaume merveilleux de sa chambre, Madame la Nuit s'allongea, apaisée. Tout doucement, elle retournait dans la forêt. Aux mille couleurs de ses songes, elle plongeait dans la cascade de ses rêves.
Une chose extraordinaire se produisit alors. Une chose très simple, mais qu'on avait fini par oublier. Tandis que la nuit peu à peu se laissait glisser dans le sommeil, une lumière tendre et dorée se leva derrière les immeubles. Zelda ne dormait pas.
Dans les rues de la grande ville, un petit garçon hume des fleurs, ravi. C'est drôle, tous les gens qu'il croise le saluent, tous les gens ont l'air très contents de le voir. Depuis combien de temps n'est-il pas sorti de chez lui ? Il ne se souvient plus. En vérité, c'est comme s'il sortait d'un long, long sommeil. En tout cas, il se sent parfaitement reposé. Ah, c'est si bon de prendre l'air, de sentir la chaleur du soleil sur son visage. Salut les arbres, coucou les chiens, hello les oiseaux, je ne vous ai pas trop manqué ? Tout va bien dehors ? Tout va bien, oui, le jour est de retour. Les gens se promènent dans les rues. Pardon, c'est à toi.
Les gens se promènent dans les rues, c'est merveille. Zelda, sa petite tribu et ses amis, Freddy le magicien, même Monsieur Pommelin et Biscotte sont là, radieux. La petite fille sourit. C'est le matin. Tiens, est-ce qu'elle ne devrait pas bailler ? Est-ce qu'elle ne viendrait pas de bailler ?
Et voilà, l'histoire est finie. Et ce qui n'est pas montrable à la radio, c'est les illustrations. On se croirait par endroit à New York, par endroit dans une vieille ville un peu style la Nouvelle-Orléans, enfin telle que je l'imagine. Et il y a un moment, un jeune rappeur avec cette espèce de grosse radio qu'on ne voit plus, qui se promène dans la ville. C'est complètement anachronique, certains dessins avec les immeubles. Et c'est tout à fait magnifique. La Madame la Nuit, elle est très années 20, dans son style de vestimentaire. Et puis on voit bien que Monsieur Lumière, l'illustratrice a pensé à Ray Charles parce qu'il lui ressemble sur son piano à queue avec un chat au-dessus. Voilà, c'est un livre absolument somptueux. Eh bien, nous allons, pour illustrer ce livre, vous mettre une musique que je suis sûre que vous allez reconnaître, Madame la Nuit. Je vous le dirai après.
Un chef-d'œuvre de la musique classique.
Thank you.
Alors, la reine de la nuit de Mozart, vous avez bien compris que c'était la flûte enchantée, et la reine de la nuit était incarnée par June Anderson. C'est un enregistrement de 1991. Mozart, la flûte enchantée, bien sûr. Eh bien, nous allons continuer avec un autre livre qui s'appelle « Cachelune » de Éric Puy-Barret, chez Gauthier Langereau, toujours. Alors, voici la quatrième de couverture. Et là, c'est un livre qui vaut 13 euros. C'est également un beau livre. Je vous ai dit tout à l'heure la date de parution, c'est 2002. Timoléon vient d'obtenir son diplôme de cache-lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important, car les croissants de lune ainsi formés embellissent le ciel et rythment le temps. Seulement voilà, le jeune garçon a égaré la pilule qui rend léger comme l'air. Dans ces conditions, comment se rendre sur la lune pour succéder au vieux Zamoléon qui va prendre sa retraite? Aidé de tous ses compagnons, Timoléon a une nuit et une seule pour trouver la solution. Donc, c'est dédié à mes chers parents pour qui j'irais bien décrocher la lune. C'est Éric Puy-Barret qui dit ça.
Cela va bientôt faire 3 ans que Zamoléon exerce le métier de cache-lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important car les croissants de lune ainsi formés embellissant le ciel et rythment le temps. Il faut beaucoup d'énergie, d'adresse et de savoir-faire pour accomplir cette tâche et les nuits de repos sont rares. Ce sont les nuits de pleine lune. Zamoléon a eu son diplôme de cache-lune il y a bien longtemps. Il est le dernier représentant de cette profession. Et aujourd'hui, il se sent totalement épuisé. Pour qu'il puisse enfin se coucher, quelqu'un va venir le remplacer.
Sur Terre, alors que la nuit tombe dans un bâtiment très mystérieux appelé École du Cosmos, un petit garçon saute de joie. C'est Timoléon qui vient de réussir le très difficile examen de cache-lune. Ses professeurs le regardent avec grande fierté.
Timoléon, te voici devenu quelqu'un de très important, lui disent-ils. Mais le temps nous est compté. Le vieux Zamoléon est épuisé et tu dois cette nuit même aller le remplacer.
Puis, il donne à Timoléon un petit comprimé. Voici la pilule qui rend léger comme l'air. Elle te permettra de voler jusqu'à la lune. Mais attention, nous n'en possédons qu'une.
Timoléon met la pilule dans sa poche et quitte l'école du cosmos en courant. Au bout de 2 kilomètres, il s'arrête net et lève les yeux vers le ciel. « À moi la lune !» hurle-t-il en plongeant la main dans sa poche de son pantalon. Mais il a beau remuer ses doigts, la pilule ne s'y trouve pas. « Malheur !» Timoléon, paniqué, découvre que la poche de son pantalon, d'écolier, est trouée de tous côtés. La pilule qui rend léger comme l'air est à jamais perdue. Et nos croissants de lune, bientôt, il n'y en aura plus.
Timoléon, désespéré, rejoint la ville la plus proche. Il s'assoit sur une boîte aux lettres et regarde la lune en soupirant. Gonzague de la Gazette, le petit marchand de journaux, l'aperçoit et s'approche de lui pour connaître la cause de son tracas. Timoléon lui explique. J'ai un énorme problème. Je dois à tout prix aller sur la Lune et j'ai perdu la pilule qui rend léger comme l'air. Oh oh, voilà une histoire bien insolite, rétorque Gonzague. Et pourquoi diable veux-tu aller sur la Lune ?
Je suis le nouveau cache-lune et je dois remplacer Zamoléon, mais je n'ai aucun moyen d'aller jusque là-haut. J'ai une idée, s'écrie Gonzague.
Il tire Timoléon par la manche de son veston, l'emmène sur le toit d'une maison, attrape ses journaux et confectionne un immense avion de papier. Timoléon grimpe dessus en hurlant « À moi la lune !» Aussitôt, Gonzague pousse l'avion du haut du toit et le regarde s'envoler. Mais rapidement, Timoléon et son coucou de papier piquent du nez et s'écrasent dans un bosquet.
Ah ! Gonzague et Timoléon sont assis sur le trottoir et regardent la lune d'un air soucieux. Daphné, la marchande de jouets, les aperçoit et s'approche d'eux pour connaître la cause de leur tracas. Timoléon lui explique « Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant le lever du jour, le vieux Zamoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc. Elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. « J'ai une idée !» déclare Daphné.
Elle attrape Timoléon par le col de son veston, court jusqu'à sa boutique de jouets, s'empare de son plus grand cerf-volant et y attache Timoléon bien solidement. Puis elle sort, vérifie la direction du vent et lance Timoléon qui s'élève dans les airs en hurlant « À moi la lune !» Mais soudain, une bourrasque violente déchire la toile du cerf-volant et Timoléon s'écrase dans un étang.
Oh, Daphné, Gonzague et Timoléon sont assis sur un banc public et regardent la lune d'un air pathétique. Roland Pendule, l'horloger, les aperçoit et leur demande la cause de leur tracas. Timoléon lui répond « Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant l'aube, le vieux Zamoléon ne sera pas remplacé. » La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc. Elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. J'ai une idée, déclare Roland.
Il attrape Timoléon par les pieds,
lui arrache
ses souliers et fonce jusqu'à son atelier. Là, il démonte une horloge, récupère deux énormes ressorts et les fixe aux chaussures de Timoléon. Celui-ci les enfile, regarde la lune et se met à sauter sur place comme un forcené. Mais rapidement, Timoléon a des ampoules aux pieds. Au bout de 40 bonds épuisés, il retombe sur le nez.
Albert, le souffleur de verre, tente d'aider Timoléon en l'enfermant dans une grande bulle de savon. Margot, qui parle aux oiseaux, le fait soulever par 300 moineaux. Benoît, le lanceur de poids, le projette de toutes ses forces. Marlou, le voyou, construit un immense lance-pierre. Tout le monde veut aider Timoléon, mais personne ne trouve la solution.
Marlou, Benoît, Margot, Albert, Roland, Daphné, Gonzague, tout le reste de la ville et Timoléon sont accoudés à un muret, en regardant la lune d'un air désespéré. Tout d'un coup, au milieu du silence, une petite voix fluette se fait entendre. « Et pourquoi ne ferait-on pas une échelle humaine ?» C'est la petite Chloé que personne n'avait repérée. Aussitôt, la gaieté gagne l'assemblée. Et l'horloger monte sur l'épaule du souffleur de verre, qui monte sur les épaules du petit marchand de journaux, et ainsi de suite jusqu'à ce que soit formée une immense échelle d'amitié.
Et là, on déplie une feuille pour montrer à l'échelle humaine jusqu'à la lune.
Timoléon s'appuie sur ses compagnons, devenu échelon, et rejoint la lune sous leurs acclamations. Et on voit Zamoléon au-dessus prendre Timoléon Et
voilà, il est sur la lune. Zamoléon prend aujourd'hui une retraite bien méritée, quelque part dans la Voie lactée. Et Timoléon, le nouveau cache-lune, prépare chaque nuit un magnifique croissant pour la ville assoupie. Depuis, le sommeil des habitants est paisible et profond, car tous croient voir en s'endormant le sourire de Timoléon. Oh, j'ai oublié! Sauf les nuits de pleine lune où il se repose, et les nuits de nouvelle lune où il cache l'astre tout entier. Voilà, c'était Cache-Lune, un très beau livre aussi d'Éric Puy-Barret. Eh bien, nous allons continuer avec... Oui, vous allez voir. Les cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, 17 juin 2026, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. Alors, vous avez reconnu Mozart, là, derrière. C'est la petite musique de nuit. C'est l'orchestre de chambre Scottish Orchestra, Scottish Chamber Orchestra de Raymond Lepard, L-E-P-A-R-D. Et c'est un enregistrement de 1984. Et là, nous écoutons la romance. C'est un andante. De la donc petite musique de nuit, Sérénade numéro 13 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sur Radio Libertaire, bien sûr. Thank you. C'était donc la petite musique de nuit de Mozart dans des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Sur Radio Libertaire, c'était Köchel 525. Eh bien, maintenant, nous allons refuser de dormir. Voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas dormir. Claire Pissara, illustration Aurélie Guilleret. Et c'est dédié à tous les parents qui rêvent de nuit complète et de grasse matinée. C'est paru en 2026 aux éditions Nathan. La quatrième de couverture. La nuit est tombée. Tous les enfants dorment à poings fermés. Tous vraiment ? Non. Au premier étage, Constance s'est réveillée. « Maman, j'ai peur, il y a du bruit. Je veux pas dormir. »
La nuit est tombée depuis longtemps. Tous les enfants dorment à poings fermés. Tous vraiment ? Non. Au dernier étage, Constance est réveillée et elle s'apprête à crier.
« Maman, j'ai peur, il y a du bruit, je veux pas dormir. »«
Attends, j'écoute, » dit maman.
« Bam, bam, bam !» Ce bruit-là, demande maman. « Oui, c'est un dinosaure qui vient tout casser, » répond la petite fille apeurée.
« Mais non !» s'exclame maman. « C'est Rosalie en bas qui fait de la batterie. Je suis sûre qu'elle a bientôt fini. Allez, bonne nuit, ma chérie !»«
Maman, j'ai peur. Il y a du bruit. Je veux pas dormir. » « Attends, j'écoute. »« Aou ! Aou ! » !»« Ce bruit-là ?» demande maman. « Oui, c'est le méchant loup. Il a mis ses bottes et vient me croquer. »
« Mais non !» s'exclame maman, « c'est Bijou. Tu sais bien qu'il se prend pour un loup. Albert va bientôt le faire taire. Alors, bonne nuit, ma chérie. »«
Maman, j'ai peur, il y a du bruit. Je veux pas dormir. » »« Attends, j'écoute. » »« Tap, tap, tap. » »« Ce bruit-là ?» demande maman. « Oui, c'est un affreux voleur qui vient prendre tous mes doudous. »
« Mais non !» s'exclame maman. « Ce sont les souris qui jouent à chat perché, ça ne va pas durer. Allez, bonne nuit, ma chérie !»«
Maman, j'ai peur, il y a du bruit, je veux pas dormir. » »« Attends, j'écoute. » »« Glou, glou, glou. » »« Ce bruit-là ?» demande maman. « Oui, c'est le ventre de l'ogre qui gargouille, il vient me dévorer. »
« Mais non !» s'exclame maman. « C'est Édouard qui vide sa baignoire comme tous les soirs. Allez, bonne nuit, ma chérie !»
Ça y est, tous les habitants de l'immeuble sont endormis. Tous, vraiment ? Non. Au dernier étage, Constance est toujours réveillée et elle s'apprête encore à crier.
« Maman, j'ai peur ! Il y a plus de bruit, je peux pas dormir !» « Oh, tu exagères, Constance !» s'exclame maman. « C'est le silence, le bruit des jolies nuits. Maintenant, ferme les yeux et chut !»« Ça, c'est le bruit des parents fatigués. » À la dernière page, on voit tous les personnages de l'histoire, sauf la petite fille et la maman, qui s'envole dans la nuit. Voilà, c'était une belle histoire pour les tout petits.
Enfin, tous les méchants qui veulent, qui font, enfin, qui
tous les méchants
imaginaires.
Oui, tous les méchants imaginaires. Alors maintenant, qu'est-ce que tu nous prépares comme musique?
La nocturne de Debussy, Nuages.
Eh bien, d'accord. Alors, c'est le
CD 2. C'est parti.
Ce sont donc les nocturnes de Debussy par la Philharmonia Orchestra, Ambrosian Singers, Michael Tilson Thomas, direction d'orchestre. Les nocturnes de Debussy d'abord, Nuages, et c'est un enregistrement de 1983.
Thank you.
Voilà, c'était Debussy, une nocturne de Debussy enregistrée en 1983. Et maintenant, nous allons lire un grand classique. Oui, il y a une chanson traditionnelle qui correspond, mais c'était sur un disque qui était rayé, donc je ne l'ai pas apporté. C'est « Jean de la Lune » de Tommy Ungerer. Tommy Ungerer, on ne le présente plus. J'ai fait il y a déjà longtemps des émissions spéciales pour lui, un des plus grands auteurs jeunesse, depuis que la littérature jeunesse existe. Cette première édition est paru en 1969. Jean de la Lune. Avez-vous vu Jean de la Lune là-haut dans le ciel, pelotonné dans sa boule argentée? Il vous fait signe amicalement. Il attend que vous lui rendiez sa visite. Une visite que tout le monde ici a oubliée et que je vais vous conter. Jean de la Lune s'ennuyait, il était seul. Nuit après nuit, il regardait de là-haut les gens qui dansaient sur la terre au clair de la lune et il pensait « Ah, si je pouvais une fois, rien qu'une fois, m'amuser un peu avec eux !» Mais voici que, par une belle nuit, une comète passa près de lui. Jean de la Lune ne manqua pas l'occasion. Il saisit la comète par sa traîne de feu et s'envola. Il arriva sur la terre comme une bombe, terrifiant bêtes et gens. L'alerte fut donnée dans la ville voisine et l'on vit accourir la police, les pompiers, les journalistes et un régiment de blindés. Un marchand de glace courageux qui espérait faire de bonnes affaires les précédait. Personne ne reconnut la douce et pâle créature qui gisait au fond de la terre, au fond d'un grand trou. L'émotion fut grande dans tout le pays, très inquiet. Les ministres questionnèrent les savants consultèrent le ciel, le général en chef, qui croyait à une attaque, donne à l'ordre d'arrêter l'ennemi. Jean de la Lune fut jeté en prison. On lui mit un boulet au pied. On créa pour le juger un tribunal spécial. Et le soir, quand la lune venait l'éclairer, il repensait à elle et restait là, tout triste. Mais une nuit, il se sentit soudain plus léger. Son côté gauche avait disparu. « Oh oh !» pensa-t-il tout content. « Il me semble que je suis près de mon dernier quartier. » La lune devenait de plus en plus mince et Jean de la Lune aussi. Il devint même si mince qu'un soir, il réussit à se glisser entre les barreaux de son cachot. Quand le chef de la police voulut interroger son prisonnier, il trouva la cellule vide et terrorisa les gardiens par ses hurlements. Pendant ce temps, Jean de la Lune goûtait la joie d'être libre. Dans le calme des nuits, il passa parmi les fleurs et les oiseaux des heures merveilleuses. À la pleine lune suivante, il était au plein de sa forme. Il s'aventura dans un bal masqué et fut rassuré d'entendre « Tiens, en voilà un qui s'est déguisé en lunien !» Jean de la Lune dansa très longtemps cette nuit-là. Il était ravi. Un voisin grognon porta plainte à la police pour tapage nocturne. À la vue des uniformes, Jean de la Lune prit peur et s'enfuit dans la forêt où les policiers le poursuivirent. Mais Jean de la Lune était plus rapide qu'eux. Il filait comme le vent au fond des bois dans un endroit tranquille. Il découvrit un vieux château. Ce château était habité par un vieux savant oublié, le professeur Éclat des Ombres. Il accueillit Jean de la Lune comme un ami. Depuis des siècles, le professeur travaillait à un vaisseau spatial qui devait
aller dans la Lune. Maintenant, la fusée était prête et se reposait dans la grande tour sur sa rampe de lancement. Mais le professeur était trop âgé et trop gros pour y prendre place. Il demanda à son visiteur d'être le premier passager. Jean de la Lune trouvait qu'il n'avait pas été en somme bien reçu par les hommes de la Terre. Il lui tardait de retrouver sa vie tranquille. Il accepta donc de rentrer chez lui au plus vite. Le professeur décida d'attendre que la Lune soit rentrée dans son dernier quartier. Le lunien pourra alors se glisser dans la fusée, pensait-il, et c'est ainsi que, quelques nuits plus tard, Jean de la Lune quitta son bienfaiteur. Les yeux pleins de larmes, ils se souhaitèrent bonne chance et la fusée emporta le lunien dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Le professeur Éclat des ombres devenu célèbre fut reçu par le Conseil des ministres. On le décora pour avoir lancé en direction de la Lune la première fusée. Mais le professeur oublia de dire que la fusée était habitée par quelqu'un qu'on avait si longtemps recherché. Et Jean de la Lune, depuis ce temps, reste pour toujours tranquillement pelotonné dans sa boule d'argent là-haut, où il attend votre visite. C'était Tommy.
Le veilleur de nuit écoute ses pas. Ils s'en vont de lui, s'éloignent tout bas. Un autre que lui se sert de ses pas, il proteste en vain, l'autre n'entend pas. On vole ses pas, les pas de personne, il entend très loin ses pas qui résonnent. Alors le veilleur attend que reviennent les pas. Les pas perdus, au-delà des persiennes.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste, les cailloux dans l'engrenage du 17 juin 2026, les cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, et nous entendions le veilleur de nuit. C'est un texte de Claude Roy, le poète du 20e siècle, et la musique est d'Alexis Morel. Et c'est un disque d'une certaine Gelsomina. Gelsomina, c'est le pseudo d'une musicienne, violoniste, compositrice et chanteuse qui s'appelle Marie Salva. Et je l'ai vue dans une sorte de concert, pièce de théâtre. C'était vraiment super bien. Je vous conseille de repérer cette musicienne Marie Salva, et là c'est un disque où elle a un pseudo, Gelsomina. Ça s'appelait Le Veilleur de Nuit, et tout à l'heure nous allons entendre une autre chanson de ce disque qui s'appellera Chanson du Jour, et de la nuit suivante. Eh bien, encore une histoire de nuit qui s'appelle Un abri pour la nuit. C'est un petit livre cette fois. Savez-vous où se trouve la dernière grande forêt? Elle est trop loin pour de si petites jambes. Mes jambes sont très bien, c'est la forêt qui est trop loin. Voilà, ça c'était la quatrième de couverture. C'est Thibaut Rassa, l'auteur et illustrateur. Et c'est un livre qui est récent, qui date d'avril 2026. Je vais commencer, ensuite tu continueras. Il n'y avait pas un souffle de vent, mais les feuilles s'agitaient dans les buissons. J'aperçus deux petites bottes de randonnée, un petit manteau et une capuche, tout aussi petites. J'avais failli ne pas te voir.
Mon œil ébouriffé observait ton air perdu de très petit explorateur. Savez-vous où se trouve la très grande forêt? Elle est trop loin pour de si petites jambes. Mes jambes sont très bien, c'est la forêt qui est trop loin.
C'est vrai qu'il aurait fallu beaucoup de jours et autant de nuits pour y arriver. Peux-tu me conduire? J'avais baissé ma grosse tête pour que tu puisses y grimper. Et là, on voit, il faut voir l'image, c'est une toute petite personne qui est grande comme la patte du chien.
Très vite, la maison était loin derrière nous.
On voit le chien avec la toute petite personne accrochée à ses poils et il court très vite. Toutoutoum, 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 frappant le tapis de feuilles, mes pattes jouaient une musique d'automne.
Un roulement de tambour glissait entre les arbres, les feuilles sonnaient sous les premières gouttes.
Depuis ta cabane hirsute, tu regardais le paysage s'effacer sous la pluie.
Au réveil, la vallée était silencieuse. Bien arrosée par la pluie, tu semblais avoir grandi. J'étais partie chercher des feuilles de romarin pour notre tisane.
Que cherches-tu dans la très grande forêt, petit explorateur? Je cherche quelque chose de précieux. Et là, on voit que le petit explorateur prend des couleurs, alors que le chien et avant, le petit explorateur était tout blanc, sans couleur.
Une petite ombre et une grande ombre descendaient la vallée. Les herbes caressaient le bout du nez.
Bercé par le bruit de l'eau, je regardais les arbres. Tu me montrais la lune et les étoiles. Nous avions déjà beaucoup marché.
Le ruisseau nous accompagnait. Tu avais trempé tes petites bottes dans chaque flaque. Tu me montrais nos reflets se déformer dans les courants.
La radio que tu gardais dans ta poche annonçait en fanfare la tempête du siècle.
Il fallait rentrer vite. Tu disais non, 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 mais nous avons fait demi-tour.
Là, on voit le vent qui s'est levé et qui a soulevé le petit personnage. Deux ombres de même taille remontaient la vallée. Les herbes nous chatouillaient le ventre.
Je devenais de plus en plus petit. Tu me montrais toutes les choses que je ne voyais plus.
Et là, je suis obligée d'expliquer l'image. On voit le petit personnage qui est devenu de plus en plus grand, enfin qui a la taille d'un enfant, et le chien de plus en plus petit. Tu marchais devant, poussant d'un geste assuré les herbes folles qui devenaient des arbres pour moi.
Il fallait aller plus vite, alors tu as baissé ta main pour que je puisse y grimper.
Là maintenant, on voit le chien tout petit et l'enfant a une tête d'enfant, une taille d'enfant normale. Les lumières de la maison se rapprochaient, l'orage aussi. Depuis ta poche, j'observais tes pas nous ramener vers le jardin.
Le nuage devenait si noir et le ciel si lourd qu'il finit par tomber.
Nous dormions sous un abri pendant la tempête. J'étais un très petit chien fatigué. Tu étais un grand explorateur.
Le matin au réveil, tu m'as cherché derrière chaque feuille sans me trouver.
Dans la poche de ta veste, quelques poils de chien sentaient bon l'argile mouillée. C'était précieux.
Tu es parti cueillir du romarin pour ta tisane.
Et voilà, c'est fini. Le chien a donc disparu. C'est un album poétique de Thibaut Rassa, Un abri pour la nuit, chez Biscotto. Ça vaut 15 euros. Un joli livre. Et bien maintenant, Gelsomina. Chaque chanson du jour et de la nuit suivante.
Ils se rencontrent à minuit, ils s'embrassent en silence, ils s'étreignent jusqu'au matin. Tout le jour passe et la suivante nuit et le jour suivant, tout pareil. Le jour au jour et la nuit à la nuit. Ils échangent les fleurs d'amour, ils échangent les herbes odorantes. L'estragon du rêve et le cerfeuil de la tendresse. Tout le jour passe et la suivante nuit et le jour suivant, tout pareil. Le jour au jour et la nuit à la nuit. Et puis ils cassent leur verre vide sur les bouteilles qu'ils vidèrent et vident encore d'eau. Tout le jour passe et la suivante nuit et le jour suivant tout pareil. Le jour au jour et la nuit à la nuit. Et puis ils dorment avec fureur, les lèvres ensanglantées, lui du sang d'elle, elle de son sang à lui. Tout le jour passe et la suivante nuit et le jour suivant. Pareil. Le jour au jour et la nuit à la nuit. Encore d'autres bouteilles. Ils s'embrassent en silence. Ils échangent des herbes odorantes. Et puis ils cassent leur verre vide. Tout le jour passe et la suivante nuit et le jour suivant, tout pareil. Le jour au jour et la nuit à la nuit. Cette chanson n'est pas prête à casser son verre. Son verre est toujours plein, toujours plein de sa bouteille. Et qui donc qui lui remplit le verre et la bouteille? Celui-là qui change chaque jour la forme des étoiles. Un cœur battant solide sous un sein frémissant. Frémissant tout le jour. La suivante nuit et le jour suivant, tout pareil. Le jour au jour et la nuit à la nuit.
Des cailloux dans l'engrenage, Radio Libertaire. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter. Nous sommes le 17 juin 2026. Et comme c'est bientôt la nuit la plus courte de l'année, eh bien, nous pouvons dédier cette émission à la nuit. Et maintenant, la nuit des animaux. La nuit des animaux, c'est un documentaire de René Mettler. C'est un grand livre qui se lit pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'il se lit vers le haut au lieu de, enfin, il se lit par la longueur au lieu de se lire par la largeur en tournant les pages. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais bon, tant pis. Voilà la quatrième de couverture. Bon, il vaut 20 euros, c'est un grand livre. Pendant notre sommeil, les animaux nocturnes s'activent dans les bois et les champs. Papillons de nuit, chauves-souris, blaireaux, renards et campagnols se faufilent dans la végétation. La chouette effraie rejoint son nid dans le clocher où l'attendent ses petits affamés. Tout au long de la nuit, chacun poursuit le même but, trouver de quoi se nourrir. Du coucher de soleil au lever du jour, nous découvrons la nuit secrète des animaux au fil d'images d'une beauté saisissante, accompagné d'un récit passionnant. Plus de 40 espèces sont ainsi représentées dans leur milieu naturel et décrites en fin d'ouvrage. Ce livre nous présente toute la magie d'une promenade au clair de lune, au plus près des animaux. Voilà, c'est un livre, je l'ai dit, qui vaut 20 euros, qui présente la vie des animaux nocturnes. Alors, et ça, c'est paru en 2019 chez Gallimard. C'est le soir. Un grand calme envahit la campagne. La fraîcheur tombe, la lumière du jour décline et le soleil couchant rosit les nuages. Avant de rejoindre leur nid, les hirondelles poursuivent encore quelques moucherons d'un vol rapide et agile. Perché tout en haut d'un arbre, le merle noir siffle un air mélodieux. Le rossignol, lui, préfère se cacher dans les fourrés pour entonner ses merveilleuses vocalises qui retentissent souvent jusque tard dans la nuit. Visiteur du soir, le moreau sphinx est attiré par le doux parfum du chèvrefeuille. C'est un drôle d'animal qui ressemble à un papillon. Il se délecte de nectar jusqu'aux dernières lueurs du jour. Allez, à toi maintenant, chacun son tour.
Au crépuscule, les animaux de la nuit sortent de leur cachette. Pour rester discrets, quand ils se reposent pendant la journée, les papillons de nuit n'ont pas de couleur aussi chatoyante. Que celle de leurs cousins du jour. Mais quand ils s'envolent le soir venu, certains dévoilent une deuxième paire d'ailes, soyeuses, au ton éclatant. Les papillons de nuit ont des formes très variées. Ils volettent de fleur en fleur à la recherche du nectar dont ils se nourrissent. Pendant ce temps, un lucane cerf-volant aux impressionnantes mandibules passe en bourdonnant tout d'un coup.
Tout d'un coup, tel un dragon, la chauve-souris surgit. Portée par ses ailes membraneuses, avec habileté, elle zigzague entre les branches. Les insectes ont tout à craindre de ce prédateur violent, capable de se diriger et de localiser ses proies dans l'obscurité totale. Les papillons font partie de son menu préféré. La nuit cache un autre redoutable chasseur. C'est un oiseau aux longues ailes pointues qui ouvre grand le bec pour avaler sa proie en vol. On l'appelle engoulevent, ça veut dire avaleur de vent. Gare à ceux qui passent à sa portée. L'engoulevent, c'est un oiseau un peu marron.
Pendant ce temps, au ras du sol, un campagnol grignote une certaine graine au clair de lune. Cachée dans l'herbe odorante, Il est si occupé qu'il n'a pas remarqué la mare au corps...
La
martre au corps souple qui s'approche à pas feutrés. Comme tous les soirs, celle-ci furette sur son territoire à la recherche de nourriture. De loin, elle a entendu remuer le rongeur et s'est glissée tout près de lui, sans se trahir. Sûre de son affaire, elle tend ses muscles, prêt à bondir, lorsque soudain, une ombre descend sur elle.
Oh, oh. Une chouette effraie surgit et ses serres en avant plonge sur le campagnol. Elle s'en saisit d'un coup, elle l'emporte dans les airs. Tout est allé très vite. Ni la martre, ni la victime n'ont entendu venir le rapace aux plumes satinées et au vol parfaitement silencieux. La martre est désappointée, son repas s'est envolé. Elle reprend sa tournée pour dénicher une autre proie que personne ne lui disputera. Quant à la chouette effraie, d'un coup d'aile, elle rejoint son nid où elle est attendue avec impatience par ses petits.
Dans un coin sombre du clocher sont blottis les poussins de la chouette effraie. Ils ont sagement attendu leur repas. Âgés d'à peine un mois, ils ressemblent à des boules de duvet clair, tout doux et pelucheux. Chez les effraies, si les deux parents chassent pour les petits, c'est toujours la mère qui donne la béquée. Elle dépèce le petit animal et commence la distribution aux oisillons affamés. À ce moment-là, tout le monde se bouscule. Chacun réclame sa part en poussant de petits cris chuintants. La proie est vite avalée.
Tandis que l'effraie repart chasser pour ses petits, une fouine rôde sur les toits du village. C'est une cousine de la martre. Elle lui ressemble beaucoup avec son corps allongé, son pelage brun et sa gorge blanche. Elle est libre volontiers domicile dans les greniers qu'elle peut mettre sens dessus dessous en fouillant partout. La fouine mange ce qu'elle trouve et apprécie selon la saison les fruits, les œufs, les petits mammifères, les oiseaux et même les déchets qu'elle peut récolter près des maisons des humains. Malheureusement, ce soir, elle n'a pas trouvé le moindre petit morceau à se mettre sous la dent.
Affamée, la fouine file tenter sa chance dans la campagne environnante. Ça et là, dans les hautes herbes, les points lumineux d'un vert fluorescent se mettent à briller. Ce sont les lampyres, qu'on appelle aussi vers luisants. Les femelles de cet insecte émettent une lumière pour attirer les mâles avant de pondre leur œuf. Un nuage obscurcit la lune et la nuit s'assombrit. Le vent léger fait bruisser les feuilles. Un mulot sylvestre, tapis dans l'herbe, se fait tout petit au passage de la fouine. Au loin, une famille de sangliers se dirige au trot vers l'orée du bois.
Reniflant et grognant, la compagnie de sangliers s'arrête près d'une mare. Les adultes labourent le sol de leurs groins, déterrant champignons, tubercules et racines dont ils se régalent. Mais la musaraigne risque elle aussi de faire partie du menu. C'est pourquoi elle s'enfuit discrètement en se faufilant dans l'herbe. L'odeur de la terre mouillée, des feuilles piétinées se mêle à celle musquée des animaux. Un gros mâle aux puissantes défenses veille sur les mers et leur marcassin à la robe rayée. Grâce à ce camouflage, les petits passent inaperçus dans les jeux d'ombre et de lumière des sous-bois. Alors, à chaque fois, il faut que j'explique comment est construit le livre. C'est un documentaire qui est raconté comme une histoire. Il y a sur la page du haut un beau dessin qui raconte la scène, et sur la page du bas, là où il y a le texte, il y a des petits cercles avec des animaux et le nom de l'animal qui est repris depuis la peinture globale. Et le petit animal est repris, et comme ça, enfants et adultes peuvent reconnaître exactement le nom du petit animal dont parle l'histoire. Je continue. Du haut d'un arbre, un gros matou observe les sangliers. Il ressemble à un chat domestique, mais il appartient à une race sauvage qui vit dans la forêt. C'est le chat forestier. Sans s'inquiéter, un loir cabriole avec adresse au bout des rameaux dont il fait à peine frémir les feuilles, tant il est léger. Il est tranquille. Le chat forestier chasse surtout à terre et ne s'aventure jamais sur des branches trop fines pour lui. Non loin de là, la chouette hulotte est aux aguets et de ses yeux ronds scrute l'obscurité autour d'elle.
Un muscardin et un lairot font leur acrobate dans le feuillage. De la même famille que le loir, ces deux petits rongeurs caracolent eux aussi avec beaucoup d'aisance dans leurs branches. Des arbres et des arbustes. Le mucassin a repéré un escargot bien appétissant. Comme leur cousin le loir, le lairot et le muscardin doivent déjà penser à l'automne. Il faudra alors manger énormément pour accumuler des réserves de graisse. Ainsi, ils pourront dormir d'un profond sommeil sans s'alimenter jusqu'au printemps. Mais pour l'instant, le lairot en alerte dresse l'oreille.
Soudain, les rongeurs pris de panique courent se cacher. Un grand oiseau les frôle dans un bruissement d'ailes inquiétant. C'est le hibou moyen-duc. Il ne s'occupe pas d'eux, concentrant toute son attention sur une proie au sol. Mais les deux petits acrobates sont vite allés se cacher dans les feuillages, oubliant l'escargot qui, lui, s'est retiré dans sa coquille. Protégés par la végétation dense de l'été, le lairot et le muscardin n'ont pas grand-chose à craindre pour l'instant. Mais ils restent toujours très vigilants, car de nombreux carnivores rôdent dans la nuit et constituent un danger permanent.
Un blaireau a quitté son terrier creusé sous les racines d'un arbre. Son poil bricolore dégage une forte odeur. Au cours de sa ronde nocturne, il mange tout ce qu'il trouve, des champignons par exemple. Depuis des fourrés proches, un putois jette un coup d'œil curieux. Mais il est exclusivement carnivore. Le repas du blaireau ne l'intéresse pas. Un hibou moyen-duc est allé se poser sur une branche pour avaler sa proie. Avant de s'envoler, il pose un ululement qui résonne dans la nuit.
Dans sa recherche de nourriture, le blaireau rencontre une salamandre tachetée. Il se méfie d'instinct de ces taches jaunes vives sur un corps noir et luisant. L'animal ne lui semble guère appétissant, il a raison. La salamandre est toxique, elle pourrait l'empoisonner. En revanche, le crabe des bois qui court près de là devrait se tenir sur ses gardes. Le blaireau pourrait bien le croquer, le carabe des bois. Le carabe mange lui-même des petits insectes. Ainsi, il existe des animaux qui en mangent d'autres et se font dévorer à leur tour. Nous allons faire une petite pause musicale, quoique non, parce que c'est presque terminé. Il n'y a plus que 3 pages, donc ça... Vas-y. Une pause musicale. Bon, allez, il est d'accord. Une pause musicale sur Radio Libertaire. La voix sans Dieu ni maître ni publicité. Et là, qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas. Vas-y. Non, c'est pas ce disque. Ah oui, c'est le disque.
Pedazo de mi corazón. corazón. Esta niña linda que nació de día, quieren que la lleven a la dulcería. Esta niña hermosa que nació de noche, quieren que la lleven a pasear en coche.
C'est un disque issu du label La Montagne Secrète et ça s'appelle Trésor pour les grandes oreilles. Et vous avez compris que c'était une berceuse en espagnol chantée par Carlos Placeres. Arruru minina.
Et tout minigna.
Minigna, mais il n'y a pas la tilde. Tout seul dans la forêt, c'est la chanson que nous choisirons pour clore ce livre qui est un documentaire mais raconté comme une histoire. Et je continue avec La nuit des animaux de René Mettler, qui est un livre Gallimard Jeunesse qui vaut 20 euros mais qui vaut son prix. Le carabe des bois n'est pas allé plus loin. Le hérisson était là, il l'a repéré grâce à son odorat subtil et à son ouïe très fine. Le renard aussi chasse grâce à son flair et à ses oreilles. Mais il n'apprécie guère les hérissons trop piquants, sauf quand il a très faim. Il préfère les petits rongeurs bien dodus, comme le mulot à collier. Heureusement, celui-ci est un peu trop éloigné. Le renard passe son chemin sans le repérer. Tiens, quelle est cette grenouille qui grimpe aux arbres? C'est une rainette verte. Elle s'accroche aux tiges à l'aide des coussinets adhésifs au bout de ses doigts, et quand ils coassent, les mâles gonflent leur gorge comme un ballon de baudruche.
Un gros crapaud se déplace lentement et lourdement sur ses courtes pattes. Bien qu'il appartienne au même groupe d'animaux que la rainette, il n'a pas l'agilité de cette dernière et ne fait que des petits bonds. Comme les autres animaux nocturnes, il regagne sa cachette au lever du jour. Chemin faisant, il croise le chevreuil qui accompagne son faon dans la prairie. Évitant leurs petits sabots, il poursuit sa route. Va-t-il se laisser tenter par cette belle limace rouge ? En tout cas, la chouette revanche ne semble pas s'y intéresser.
Et là, c'est la dernière histoire de la nuit. Petit à petit, le jour s'est levé. Les oiseaux se sont mis à chanter pour accueillir le soleil qui apparaît à l'horizon. Un merveilleux concert monte dans l'air encore frais. Le papillon vulcain tout engourdi attend la chaleur des premiers rayons pour déployer ses ailes. Une nouvelle journée commence, quelques animaux s'attardent, les chevreuils broutent l'herbe couverte de rosée avant de se retirer dans la forêt. Le lièvre s'est blotti dans un creux caché dans l'herbe haute où il passera la journée. Peu à peu, les animaux du jour vont prendre la relève et régner à leur tour sur la campagne jusqu'au coucher du soleil. Et là, l'histoire est finie et il y a ensuite plusieurs pages, il y en a six pages de documentaire avec la précision du dessin et un texte comme un index qui se réfère aux pages du livre. C'est vraiment très bien fait, très beau, un très beau dessin. Bon, je l'ai raconté d'une traite, mais ça peut se lire par petits morceaux. Voilà, c'était la nuit des animaux dans des cailloux dans l'engrenage. L'enfance poil à gratter sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Une histoire qui se passe dans la forêt la nuit. Eh bien, nous allons continuer avec la montagne secrète.
Le numéro 4. Dans la forêt.
Eh oui, extrait de Boulet Boulet. C'est Daniel Lavoie qui est un chanteur québécois, je crois.
Raconte-moi l'histoire du tout petit garçon qui s'est perdu un soir très loin de sa maison. Avait-il le cœur gros tout seul dans la forêt? Est-ce que les animaux l'aidaient et lui parlaient? Un renard fin finot s'est bien moqué de lui. Deux jambes grand nigo, ça ne suffit pas ici. Un lièvre plus gentil qui s'appelait Lapin lui offrit un radis, voyant qu'il avait faim. Grimpe vite sur mon dos, je t'amène au sentier qui va jusqu'au ruisseau, tu pourras te baigner. Un radeau, un castor intrigué lui coupa des boulots. Il filait doucement, poussé par le courant, quand il vit un géant penché sur le ruisseau. Le garçon courageux décida de foncer à travers les cheveux d'un grand saule enchanté. S'endormit enfin au chant d'un guépin-son et retrouva au matin le chemin de sa maison. Raconte-moi l'histoire de la petite fille qui s'est perdue un soir très loin de sa famille. Ce sera pour demain.
des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter sur Radio Libertaire. Eh bien, nous allons continuer avec tout à l'heure cet extrait du label La Montagne Secrète qui s'appelle Petit Trésor pour Grandes Oreilles et qui est paru en 2005. Et pour terminer, bon, j'ai pas le temps de raconter d'autres histoires. En fait, c'est vrai, l'album que nous avons lu tous les deux est mi-documentaire, mi-histoire. C'est vraiment bien parce que c'est un documentaire qui est raconté comme une histoire et c'est beaucoup plus alerte. Et donc, c'est un cadeau que je vais faire à l'enfant. Il m'a demandé tellement ça lui plaisait, tellement c'est beau. Et puis surtout, toute la partie documentaire, les nombreuses pages qu'il y a après sont vraiment instructives. C'est un très, très beau livre. J'espère qu'il est toujours, disponible. Pour finir, alors là, un vrai documentaire qui n'a plus rien à voir avec la nuit. J'avais commencé comme une espèce de feuilleton sur la parité filles-garçon chez Actes Sud Junior, Karina Loire et Eva Coste pour l'illustratrice. Cette fois, c'est un documentaire qui est paru en 2020. Et être fort, un impératif pour les garçons. Alors d'abord, la quatrième de couverture, mais je crois que je l'avais déjà raconté. C'est un livre qui vaut 15,50 €. Là, je ne vais pas parler de la quatrième de couverture, mais de la page qui s'appelle « Être fort, un impératif pour les garçons ». Pendant des siècles, l'éducation des garçons était basée sur le modèle de la virilité. Un garçon doit être courageux, ambitieux, et ranger sa sensiblerie au placard, une sacrée pression, pas toujours facile à assumer.
Champion, fiston.
L'activité sportive fait partie du parcours obligé des garçons, car elle apporte toutes les vertus dites masculines, la force, le courage, l'esprit d'équipe et de compétition. Cela les conduit à choisir des sports collectifs comme le foot ou le rugby, où ils peuvent « se frotter » entre guillemets les uns aux autres. Ils représentent les deux tiers des licenciés inscrits dans les fédérations sportives. Et malheur à celui qui n'est pas sportif, il sera traité de « femmelette » ou de « mauviette » ou à celui qui pratique des activités plus féminines comme la danse ou la natation synchronisée.
On ne pleure pas.
Un petit garçon trop sentimental qui pleure à la moindre douleur physique ou contrariété inquiète les parents qui redoutent que ce dernier ne développe un caractère de fille, comme si ce terme était une insulte. Contrairement aux filles qui n'ont pas peur d'exprimer leurs émotions, les garçons ont appris très tôt qu'il fallait les maîtriser, les dissimuler. Ils peuvent montrer leur colère, mais pas leur chagrin ni leur tristesse. Cela n'empêche pas les garçons d'éprouver des sentiments, mais ils ont du mal à trouver les mots justes pour les formuler. Alors, ils ont tendance à s'enfermer dans leur mutisme ou ils s'expriment différemment.
Heureusement, ça change.
Grâce au féminisme, les parents veillent à ne pas faire de leurs fils des graines de machos. Ils leur apprennent à préparer les repas, débarrasser la table, mais aussi à communiquer sur leurs doutes, leurs craintes, leurs problèmes, comme on fait toujours pour les filles. Les nouveaux pères ont compris qu'il fallait laisser s'exprimer la sensibilité de leurs fils. Mais ce n'est pas encore totalement acquis ni spontané. Donc voici, c'était un exemple de page sur la parité filles-garçon chez Actes Sud Junior par Karina Loire et Eva Coste sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et bientôt, les 40 ans de femmes libres. Nous allons passer un dernier titre de la Montagne Secrète.
Numéro 5.
Le numéro 5,
la
c'est...
La grève des poules.
Dans la grange de paille se rassemble la volaille. De la grève il est question, chacun rend son opinion. De la grève il est question, chacun rend son opinion. Poule blanche est présidente, elle se dit très mécontente. Le fermier ménage le grain, nous allons crever de faim. Le fermier ménage le grain, nous allons crever de faim. Poule brune philosophe dit quelle catastrophe. Va falloir montrer les dents aux fermiers trop exigeants. Va falloir montrer les dents aux fermiers trop exigeants. Il faut bien dire la poule grise qu'on se cotise. C'est vraiment le seul moyen de nous procurer du grain. C'est vraiment le seul moyen de nous procurer du grain. Qu'on se cotise, dit la noire, c'est notre devise. C'est bien coûteux, mais vendons plus cher nos œufs. C'est bien coûteux, mais vendons plus cher nos œufs. Sommes-nous, dit la couveuse, quêteuse. Faut toujours tendre la main pour avoir si peu de grain. Faut toujours tendre la main pour avoir si peu de grain. Vous avez raison, commère, le fermier est trop prospère. C'est un glou 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 glouton, dit qu'on perd le dindon. C'est un glou 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 glouton, dit qu'on perd le dindon. Dans le plus fort de la chicane, le canard dit à sa canne, pour ne pas être témoin, restons dans notre coin, coin, coin. Pour ne pas être témoin, restons dans notre coin, coin, coin. Amen, on reprend la canne, je ne suis qu'une paysanne. Mais quoi qu'on dit, moi je pond des œufs aussi. Mais quoi qu'on dit, moi je pond des œufs aussi. Madame Dinde a la parole, le fermier vraiment nous vole. Envers nous il a des torts, faux glou 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 c'est plus fort. Envers nous il a des torts, faux glou 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 c'est plus fort. Puis le coq dressant sa crête dit aux poules que vous êtes bêtes. Pondez bien on vous donnera du coco du cocola. Pondez bien on vous donnera.
Voilà, l'émission est finie. C'était la grève des poules interprétée par Yann Perrot, un des extraits de la compilation de la montagne secrète qui datait de 2005. Eh bien, je vous dis au revoir, mais d'abord, au revoir, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Alors, c'était la 171e émission, vous rendez compte, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous allons nous retrouver pour les 40 ans de Femmes Libres, l'émission qui a lieu tout à l'heure à 18h30 sur cette même antenne. Et ça sera à 14h à l'espace Louise Michel, le 20 juin, oui, ça sera le samedi 20 juin, de 14h à je ne sais pas combien, à plein d'heures. C'est 42 Terre, rue des Cascades, dans le 20e, les 40 ans de l'émission Femmes Libres. Au revoir. Et maintenant, à place à Anne Sylvestre.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave, elle désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Maintenant, place à l'émission suivante, le Club Ferré. Au revoir.